popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Le seul avantage à être coincé dans des embouteillages, comme c'est sans doute votre cas, ou que ça ne va pas tarder à l'être, c'est que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire que d'écouter la radio et bien entendu popopop, tandis que nous, nous nous adressons à ce que les gens du département marqueterie appellent un public captif. Et bien sûr, puisque vous êtes avec les enfants, qui en profitent sur la banquette arrière pour se gaver des œufs pondus du jour par nos amis du chocolat industriel, et que vous-même, vous commencez à être tenaillé par une petite faim, nous avons choisi de vous parler d'une histoire d'ogre. Oui, une histoire qui ouvrira l'appétit aux grands et calmera les petits soudain inquiets de ce regard étrange que vient de leur lancer leur papa dans le rétro. D'autant plus que son héroïne n'est autre qu'Anna Girardot, avec un seul N à Anna, comme dans Anaconda, vous savez, ce serpent sensuel et silencieux qui siffle sur nos ciboulots. Et oui, nous allons passer l'heure qui vient en compagnie d'un ogre qui ne fait rien qu'à embêter Anna et son fils et à leur foutre les Mickey dans un film qui sort mercredi et qui a pour titre, tenez-vous bien, Ogre. Quant à vous, popopien, rassurez-vous, nous sommes là avec Anna pour vous dire une fois de plus à quel point c'est bon d'avoir les jetons, surtout quand ce n'est que du cinéma. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Anna.
Bonjour Antoine.
Bonjour et bienvenue dans Pop, pop, pop.
Merci.
Et avant d'aller plus loin, tout de suite, rassurez les enfants qui nous écoutent. Dans les bouchons, les embouteillages, c'est évidemment beaucoup plus effrayant que les ogres, n'est-ce pas?
Ah, ça dépend à quelle heure.
Ah, mais là on est alors, on commence à être dans l'heure
dans
de...
Dans deux heures, voilà. Ce sera peut-être plus effrayant.
Bon, c'est quoi la dernière fois où vous avez vraiment eu peur, vous?
Oh là là, peut-être en ce moment, peut-être dimanche dernier, j'ai eu un petit peu peur. J'espère que ça va s'arrêter là. Mais sinon, j'ai toujours mes petites peurs d'enfance. Hein. J'ai toujours peur du noir, j'ai peur de la cave en bas quand il faut y aller tout seul. Voilà, j'ai peur du silence, j'ai peur d'être seule.
Est-ce qu'il y a un film qui vous est traumatisé au cinéma?
Bien sûr, moi je me souviens d'avoir vu au cinéma Darkwater avec mon père,
ouais.
Et d'avoir eu très peur, et d'avoir été incapable de prendre un ascenseur pendant plusieurs années ensuite.
Ça va mieux?
Ouais, ouais.
Non, parce qu'on est au sixième quand même là,
Je suis montée à pied.
Bah, vous êtes montée à pied, c'est pas vrai. C'est pas...
Non, c'est pas vrai.
Donc Darkwater et un autre, moi je
Et toi?
Moi c'est Massacre à la tronçonneuse.
Ah bon?
Moi, je me suis jamais remis de Massacre à la tronçonneuse.
Ah ouais, non, moi, les slashers, c'est pas du tout mon...
Mais oui, mais là, c'est pas des slashers, c'est des psychopathes, en fait. Et c'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie?
Oui, c'est une histoire vraie.
Mon Dieu.
C'est un fait divers.
Oh là là.
Au Texas, dans les années 60.
C'est vrai?
Ouais.
Quelle horreur.
Ah, on le regarde autrement, le film, d'un seul coup, la Massacre à la tronçonneuse.
Parce que Darkwater, à côté, hein, c'est rien du tout.
Bon, et vous aimez faire peur?
Bien sûr, et j'adore me faire peur. J'adore aller à la cave, justement, dans le noir. Moi, c'est une de mes émotions que je préfère avoir au cinéma. C'est quelque chose que je trouve que le cinéma a ce pouvoir de manipuler le spectateur et de l'emmener là où il n'a pas envie d'être. C'est pas le cas de Ogre, attention,
ouais,
ça
ouais.
fait peur,
ouais.
Mais n'y allez pas avec les enfants. Mais
bien qu'il y ait des enfants dedans.
Même s'il y a des enfants.
Et qui ont peur.
Et qui ont peur. Mais ce qui est bien dans Ogre, c'est que on a peur, mais on a autre chose. On a d'autres sentiments qui subsistent.
On va y revenir dans un instant à Ogre avec Charline. On parle toujours des ogres, mais il faudrait quand même pas oublier les ogresses, hein. Parité oblige, merci. Parce que Madame Ogre, si son époux bouffe le petit pousset, elle n'est pas contre un petit auriculaire de temps en temps.
Hein. Évidemment.
On se souvient par exemple de la princesse qui devient ogresse dans Shrek 2.
Ah, Fiona.
Ah, ben oui.
Ah, mais Fiona, c'est la meilleure des ogresses.
C'est la meilleure des ogresses?
Ah, c'est la meilleure des princesses.
Et pourquoi c'est une bonne ogresse?
Ah, parce que c'est une princesse qui vit enfin comme elle le veut.
C'est-à-dire qui s'est libérée de son destin de princesse.
Bah c'est ça. Je pense que Fiona, elle se libère du carcan dans lequel elle est censée vivre et elle est enfin elle-même. Fou, ça fait du bien.
Iriez-vous jusqu'à dire que c'est une allégorie? Bon, je sais que vous avez vécu et étudié à New York et je me suis dit qu'il serait pas mal de lancer ce pop-pop-pop avec un petit morceau de la grande pomme. C'est une tranche de New York au-dessus de la 110e rue et c'est Bobby Womack, Across 110th.
Ooh. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you're put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Talk to y'all about right now. Hey, brother, there's a better way out. Shorting that coat, shooting that dope man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Trick on the street, ooh baby, across 110th Street, you can find it all.
Et je vous pose la question, quoi de mieux qu'un peu de Bobby Womack hein, par un lundi de Pâques bloqué dans sa bagnole? Surtout si c'est en compagnie d'Anna Girardot, qui n'est pas dans la bagnole, hein, qui est avec moi en studio et qui vient nous parler aujourd'hui du film Ogre d'Arnaud Malherbe. C'est son premier film, hein, je crois.
Tout à fait.
Premier long métrage. Et qui sort mercredi en salle. Alors avant de parler d'ogres qui font peur, faisons un petit état des lieux de votre vie, ma chère Anna. Vous êtes un peu comme le furet du bois joli, vous savez, celui qui court par ici, qui court par là, il passe, il repasse. Anna, par exemple, en ce moment, vous passez dans ceci.
Tu vas faire une mission en Allemagne.
Et Anne, je lui dis quoi?
Tu vas où?
Tu lui mens.
À Londres.
De l'autre côté, on se connaît plus.
Ta cible est Radagast.
Tu as moyen de voir Radagast grâce à sa fille.
Mais je crois avoir reconnu la voix de José Garcia. Je l'entends partout. Mais c'est dans ma tête. Bon. Il s'agit de la série Totem sur Prime Video, dans laquelle vous jouez la femme de Nils Schneider. C'est une série d'espionnage qui se déroule dans les années 60. Et vous avez dit d'ailleurs à ce sujet qu'un des intérêts du rôle, c'est qu'on y rappelle à quel point la place des femmes dans la société a changé.
A bien évolué, en effet. C'est vrai que l'ayant vécu en tant que comédienne, de vivre des scènes où tout d'un coup on doit aller à la banque demander un chèque, qu'on a besoin de l'autorisation de son mari pour le faire, c'est quand on le vit comme ça, on se dit « ah ouais, quand même ».
Mais dans cette série, vous allez vous contenter d'être femme d'espion ou bien votre personnage va-t-il aussi se lancer à son tour dans sa carrière ?
Eh bien,
je
pour
pense
cela,
que vous n'avez pas le droit de me
regarder
répondre.
La série jusqu'au bout.
Voilà, sinon vous allez être obligé de vous débarrasser de moi si vous me le dites.
Et vous avez tout compris.
Très bien. En tout cas, moi je vous recruterai volontiers comme espionne car vous semblez vous amuser à changer de genre et d'univers. Par exemple, on vous verra bientôt au cinéma dans La Maison, c'est un film d'Anissa Bonnefond d'après le livre éponyme d'Emma Baker. Je n'en révèle pas trop si je dis que la maison en question est une maison close.
Tout à fait, en Allemagne.
En Allemagne. C'est une histoire assez incroyable hein, que cette plongée de Gonzo journalisme. C'est cette femme, Emma Baker, qui s'est vraiment
prostituée
pendant deux ans dans une, dans une maison close, disons-le. Comprenez cette démarche ?
Elle a été intéressante à comprendre. Il faut savoir qu'on est vraiment dans le point de vue de Emma. C'est son histoire qu'on raconte, c'est son point de vue face à ce métier, parce que c'est considéré en Allemagne comme un métier. Elles sont reconnues, elles sont protégées plus ou moins selon la maison dans laquelle elles sont. Mais c'est surtout le point de vue de cette femme sur sa sexualité, sur son désir. Et c'était vraiment ça qui était intéressant et qu'il fallait prendre comme angle. En tout cas, c'était que ce n'est pas un discours sur la prostitution en général.
Oui, oui.
Voilà, il faut faire attention à ça.
C'est une histoire.
C'est une histoire, mais c'était étonnant à vivre, encore une fois, de se plonger dans sa peau et dans ce quotidien et dans son point de vue. C'était très rock'n'roll, notamment grâce à Anissa Bonnefond. Qui est une réalisatrice, une découverte, une rencontre incroyable qui m'a fait vivre un tournage que je n'oublierai jamais.
Ça donne envie.
Oui.
C'est annoncé pour quand ça ?
Bah, cette année.
Cette année, très
Allez.
Bien. Alors attendez, parce que là j'ai une série d'espionnage, j'ai un film sur l'histoire de cette prostituée en Allemagne, et pourtant vous dites souvent que vous vouliez, en commençant, hein, faire de la comédie, avant tout de la comédie. Et pour se rendre compte de votre potentiel comique, le public a dû attendre ça.
Je m'appelle Anne, j'habite Lyon, je suis juste à la recherche de l'amour, et je suis sûre que je vais le trouver dans une émission de télé-réalité.
Mais non, c'est pas le moment là.
J'essayais juste d'être drôle, c'est...
N'essaye pas d'être drôle.
N'essaie pas d'être drôle. Voilà le conseil de Jonathan Cohen. On aura évidemment reconnu au passage cette désopilante série La Flamme sur Canal avec Jonathan, dans laquelle vous jouez Anne, l'institutrice.
Tout à fait.
Enfin la comédie donc.
Et oui, mais c'est un petit peu comme sur l'autoroute. Hein. Parfois, on met sur Waze une destination et puis elle nous fait prendre des chemins de traverse pour arriver à destination.
Ah, j'aime bien cette image.
Disons que ouais,
ça
la comédie.
Pas qu'à moi, donc.
Cette comédie, elle m'est arrivée comme vraiment un peu un miracle parce que j'avais un peu abandonné l'idée d'en faire. Jonathan Cohen m'a fait confiance pour interpréter ce rôle dans cette série qui était absolument dingue et à tourner et à voir. C'est totalement en plus mon humour. Jonathan est un génie et toutes les comédiennes qui m'entouraient aussi. Donc on s'est vraiment amusé à jouer cette saison 1. On s'est retrouvés cette année pour faire la saison 2.
Voilà, le flambeau oui.
Les aventuriers de Chupacabra.
Ouais.
et c'est encore plus drôle.
Qu'est-ce qu'on peut nous en dire sans avoir à me supprimer ?
Ah, qu'est-ce que j'ai le droit de dire ?
C'est pas une série d'espionnage.
Non. Disons que ce sont des aventuriers qui arrivent sur une île et qui doivent apprendre à se débrouiller par eux-mêmes pour survivre.
C'est Koh-Lanta, quoi.
Je ne sais pas.
Non, je ne sais pas non plus. Mais ce que je peux vous en dire, moi, c'est que Anne est toujours Anne.
Oula, Anne est toujours Anne. Mmh. Elle a décidé de pardonner Marc.
Ouais.
De son attitude et de recommencer du bon pied. Mais Anne, la pauvre Anne, cette fois-ci, elle est détestée par tout le monde.
Vous savez, ça vous donne envie de continuer dans la comédie, ça y est, Anna ?
Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est un plaisir.
Vous avez des projets dans ce registre-là ?
Non,
pas du tout.
D'ailleurs, vous pouvez joindre mon agent chez Adéquate. Non, j'adore la comédie, j'ai envie d'en faire encore plus. C'est un exercice que je trouve très intéressant. Mon père m'a beaucoup, beaucoup montré de comédie quand j'étais jeune. J'ai été inspirée par ça. C'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie, que je regarde. Et donc j'ai envie de jouer. Voilà. Bah après il faut aussi. Il y a tellement de comédies. Enfin c'est un genre très large.
Ouvert, oui, bien sûr.
Ouvert. Donc voilà. Après il faut trouver la comédie qui corresponde à ce que j'aime.
Et on salue le père en question au passage, hein, Hippolyte. Vous avez réalisé aussi ce court-métrage « Venise n'existe pas » en 2020, et je crois savoir que vous comptez maintenant passer au long. Vous voyez, je fais vraiment le tour d'horizon
complet.
Et puis j'ai pas fini, alors...
Oui, tout à fait. J'ai réalisé ce court-métrage qui s'appelle Venise n'existe pas, qui est d'ailleurs disponible sur MyCanal, si ça intéresse quelqu'un, que j'ai adoré faire avec Lou Lampros, qui est l'héroïne du film. Il y a aussi Alexis Michalik, Arthur Guzzi. Et c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai adoré toute l'aventure en fait de la réalisation, parce que d'abord il faut financer le film, il faut convaincre les gens de financer votre film, puis il faut trouver l'équipe d'artisans qui va tout d'un coup, grâce à leur talent, permettre à ce que le film devienne un objet,
construire un petit univers.
Exactement.
De A à Z. Ouais.
Et puis après il y a toute cette série de miracles qui fait qu'on arrive finalement au dernier jour de tournage et qu'on a toutes les images en boîte. Et puis après il y a le montage, et puis il y a encore d'autres personnes qui sont là pour vous entourer, pour vous aider. Toute l'aventure m'a beaucoup plu.
Bon, et comme je sais plein de choses de vous, Alain, je sais qu'il y a même un projet de long métrage américain. Mais en attendant, vous sortez à peine du tournage de Madame de Sévigné. C'est un film d'Isabelle Brocard, et j'imagine que c'est un film d'époque en costume. Ça aussi, ça fait partie du plaisir fondamental de jouer, le déguisement.
Alors oui, ça, je signe. Je suis toujours en plein tournage justement de ce film. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand on met les robes le matin, qui sont sublimes, faites avec des vrais tissus anciens, vraiment du XVIIe siècle, et qu'on se retrouve dans ces décors de château, on n'a qu'une envie, c'est de jouer toute la journée, parce que finalement tout ce qui nous entoure participe déjà à ce qu'on fait, et ça ramène à en fait quelque chose de très enfantin, qui est juste de jouer.
Mais il n'y a pas d'ogre dans ce château.
Mais il n'y a pas d'ogre.
Ah, mais je boucle la boucle, Anna, parce que dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline Roux pour parler d'ogre. Avec vous, c'est-à-dire pour parler du film Ogre d'Arnaud Malherbe qui sort mercredi en salle. Mais pour l'instant, histoire de se mettre dans l'ambiance, Ogre avec un soupçon de loup-garou et une petite touche de Londres, je vous propose d'écouter ensemble ce morceau oublié de Warren Zevon, Werewolves of London.
Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him, he'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect.
France Inter. Antoine Decaune. Pop.
Et Charline Roux. Car oui, voici celle que l'on surnomme l'ogresse picarde, tant est grande sa soif de connaissances, et pas que de connaissances d'ailleurs. Bonjour Charline.
Mais quelle est donc cette vilaine réputation que vous voulez me coller, Antoine Decaune? Bonjour.
Charline, Anna, Charline.
Enchantée.
Les cloches se sont-elles montrées généreuses d'ailleurs?
Toujours,
au passage?
Toujours, je suis,
oui,
très sage.
C'est vrai?
Oui.
Très bien. Charline, vous avez vu Ogre. D'abord, pour les enfants qui nous écoutent, est-ce que Ogre est gore?
Non.
C'est tout?
Bah oui,
moi c'est clair.
Pour le coup, non, ça fait pas, c'est pas gore.
C'est pas terrifiant.
Non,
bon,
mais
ça fait peur.
Ouais, on n'est pas rassuré des masses quand même.
De quoi ça parle?
Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Elle a fui un compagnon dont on comprend qu'il était violent. Elle est accueillie plutôt chaleureusement par les habitants et plus particulièrement par le médecin, un homme charmant. Mais le petit Jules est méfiant, d'autant plus méfiant qu'un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules a un mauvais pressentiment et l'impression que quelqu'un ou quelque chose rôde autour de la maison. Anna, vous avez débuté entre autres avec Fabrice Gobert dans Simon Werner et dans Les Revenants, donc dans un registre plutôt inquiétant. Quel genre de plaisir est-ce pour vous de faire peur et d'avoir peur?
J'adore.
Disons que c'est un style de cinéma qui me plaît parce qu'il permet de parler de relations humaines, de problèmes sociétaux, enfin de sujets en fait qu'on aborderait plutôt simplement dans d'autres registres, mais grâce au fantastique en fait on peut se permettre un peu toutes les libertés. D'ailleurs il suffit de voir les fans de films de genre, c'est vraiment c'est des cinéphiles, c'est des adorateurs du cinéma. Donc il y a toujours de la part du réalisateur ou de la réalisatrice une envie de cinéma. Ça c'est ce qui m'attire en général. Mais et puis quand j'ai lu le scénario, je me suis dit finalement même sans l'ogre le film m'aurait plu.
Mais comme on le rappelait il y a quelques instants, à l'origine vous vouliez faire la comédie et vous aimiez faire rire. Est-ce que vous aimez faire peur par défaut?
Moi, j'aime tout. Enfin, je veux dire, j'ai absolument pas envie de rester inscrite dans une seule case. J'ai envie de pouvoir explorer un petit peu toutes sortes d'univers différents. C'est là le plaisir d'être acteur, je trouve, c'est de se pouvoir se déguiser dans plusieurs registres.
Oui, mais alors je le dis autrement, est-ce que vous avez du plaisir aussi à faire peur?
Ah, bien sûr, ouais. Évidemment. Il était hors de question, j'avais dit à Arnaud, que le film ne fasse pas peur. Et quand je le comprenais sur le plateau, et que je me faisais même peur moi-même, je trouvais ça très kiffant en fait.
Et Ogre d'Arnaud Malherbe, c'est son premier long-métrage, ça ressemble à ça.
Si vous saviez ce qu'on est heureux de vous voir.
Ravi d'être là, il s'appelle Jules, et il a 8 ans.
Voilà votre petit lit.
S'enfonce dans la nuit, il grandit.
On a déjà perdu 8 veaux. C'est une sorte de chien sauvage qui fait n'importe quoi.
Ça a l'air gentil, non? Mais pourtant, il y a un monstre, mais...
Alors, Charline, vous que je sais impressionnable, avez-vous eu les chocottes en regardant Ogre?
Oui, mais je suis une véritable flippette, faut-il le rappeler.
Elle est terrifiée. Elle mettait un film où il y a une porte qui s'ouvre avec un mec qui arrive avec un couteau, elle est terrifiée.
Non, mais là, en plus, j'ai eu d'autant plus peur que les terreurs sont abordées à hauteur d'enfant. C'est le cas ici, hein. C'est un petit garçon qui perçoit un danger. Chloé, elle n'a pas vraiment peur d'un monstre, mais elle a peur de ce que ressent son enfant. En réalité, elle a peur de sa peur. Comment est-ce que vous avez conjugué ces deux niveaux de lecture et ces deux types de terreur?
Mais justement, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Finalement, je me suis dit, Chloé et Jules répondent à la même question à la fin du film. Faut-il ou pas se laisser dévorer par l'ogre? Et ce que j'aime, c'est que Chloé représente le monde des adultes, celui qui essaie de protéger les enfants en ne leur disant pas tout, en les protégeant avec des termes qu'ils peuvent semblement comprendre. Et puis, on a en face les enfants qui comprennent tout du monde des adultes, mais qui, eux, n'ont pas le bon langage pour exprimer leur propre peur ou leur propre aux angoisses. Et leurs références finalement viennent de leur monde, de ce qui les entoure, notamment Jules, c'est ce manga avec ce monstre qui y réside. Et c'est ce qui me plaît finalement, ces deux personnages qui ont du mal à se parler et ces événements un peu fantastiques qui vont leur permettre de se rejoindre. Il y avait quelque chose dans le personnage de Chloé, de la maternité, qui me touchait énormément. C'est presque une mère louve qui veut protéger, quoi qu'il arrive, son enfant. Et en même temps, c'est une femme avec ses fêlures et avec ses zones d'ombre qu'elle essaye elle-même de réparer, de protéger. Donc, il y avait voilà toute cette gamme de personnages féminins que j'avais très envie d'aborder.
Mais sans rien révéler de tout à fait personnel, vous êtes d'ailleurs tombée enceinte pendant le tournage de ce film.
C'est étonnant.
Il y a une relation de cause à effet avec cette histoire de grand bien sûr.
Mais non, mais c'est très étrange parce que même moi au départ, j'avais dit à Arnaud, mais tu sais, jouer une maman, j'ai pas d'enfant, est-ce que vraiment ça va être crédible? Pourtant, j'avais déjà eu beaucoup d'enfants dans d'autres films, mais là, c'était tellement important, j'avais peur de manquer de crédibilité. Et puis on a rencontré Giovanni Pucci, qui est un acteur formidable, parce que c'est un acteur, hein, il a beau avoir 7 ans, ouais. Je l'ai vu pendant 30 jours jouer, s'amuser, mais jouer et travailler.
Ça m'intéresse là, qu'est-ce qui fait que vous repérez un acteur à l'âge de 7 ans?
Ah bah, ça a été au bon jour. Très simplement, au bonjour, je me suis dit, ah, le petit gars, il a du caractère, j'aime bien ça. Et puis, il connaissait son texte par cœur, et il avait du texte, oui. Il avait beaucoup de texte.
C'est
rassurant. Et il le connaissait très bien. Il y avait quelque chose de vraiment intriguant, et puis il avait envie. Il avait envie d'y aller, il avait compris la responsabilité que c'était pas son premier film. Et donc, tout d'un coup, quand on a un partenaire de jeu comme ça, on a envie d'y aller avec lui.
Mais surtout quand on incarne une mère fusionnelle, parce que c'est ça, elle est très à l'écoute de son enfant, elle est collée à lui constamment, en fait. Ça implique une relation de jeu très particulière, j'imagine.
Oui, j'ai rencontré sa maman, j'ai rencontré son frère, il m'a ouvert un petit peu son univers, il m'a montré justement, lui aussi, les mangas qu'il lisait. Et il a été très généreux, il m'a vraiment laissé la place pour l'aborder, pour exister. Et je me demande parfois si c'est pas aussi ça qui a créé ce déclic en moi. Il faut savoir qu'on s'est arrêté au bout de 15 jours pour le confinement. On a repris 3 mois plus tard. Et puis quand je suis arrivée, en effet, j'étais donc enceinte de 3 mois. Quand je lui ai annoncé, j'étais très heureuse, très touchée. Et finalement, on a partagé cette expérience, ce film ensemble d'une manière... Il y a toujours une sorte d'écho un peu étrange dans un film quand on le fait. Ça fait toujours un peu écho à notre propre vie. On se demande un peu sous quel angle est-ce que ça va apparaître. Là, c'était celui-là. Et ça a apporté, je pense, à mon personnage, en tout cas, quelque chose en plus.
Anna, vous le disiez, là, vous avez souvent travaillé avec des enfants. Or, une des peurs courantes chez les acteurs, une des peurs les plus répandues, c'est d'avoir à travailler avec des enfants ou des animaux.
Oui, c'est vrai, on dit souvent, pas de voiture, pas d'enfants, pas d'animaux.
C'est donc pas si terrible que ça.
Non, c'est pas si terrible que ça, mais il faut bien les choisir, parce que oui, c'est compliqué.
Mais là, il y a un enfant et des veaux.
Oui, mais ils sont morts. Alors du coup, ça va. Les veaux, hein, pas les enfants, oui. Évidemment.
Bon, Anna Girardeau, nous allons continuer à parler de Ogre dans un instant, mais je vois qu'il est 16h32, et qui dit 16h32, même le lundi de Pâques, dit Pop News.
Le Coachella Festival bat actuellement son plein en Californie, l'occasion de dévoiler des tenues aussi spectaculaires que chamarrées, mais aussi et surtout d'écouter de la musique et d'y découvrir quelques performances inédites. Ainsi, Billie Eilish a été rejoint sur scène par Damon Albarn. Et Harry Styles avait lui invité Shania Twain. Mais ce qui a aussi retenu notre attention, c'est Danny Elfman, compositeur de géniales bandes originales, et donc les festivaliers ont pu entendre ceci en live. Le thème de l'étrange Noël de Mr. Jack, ainsi que ceci. Le thème des Simpsons en concert, le festival dure jusqu'à dimanche prochain, il est donc fort possible qu'on vous en reparle, et pour suivre les performances, rendez-vous sur la chaîne YouTube Coachella.
Un homme d'affaires milliardaire a décidé de laisser une empreinte, son empreinte, dans l'histoire avec un grand H, c'est le pitch de compétition officielle. Et pour ce faire, l'homme d'affaires en question a une grande idée, faire un film, et pour cela, il rassemble les meilleurs.
Lola Cuevas, la directora. Supervalorada por la crítica.
Yo quiero financiar una película con actores de renombre.
Por fin nos conocemos.
Acción.
¡Mamá! ¡Mamá! encore l'impression d'avoir entendu José Garcia. Ouais. Le célèbre cinéaste Lola Cuevas, Penélope Cruz, la star hollywoodienne Félix Rivero, Antonio Banderas, et le comédien de théâtre radical Ivan Torres, Oscar Martinez. Mais si leur talent est grand, leur ego l'est encore plus. Compétition officielle de Marianne Ocon et Gaston Duprat, ce sera le 1er juin dans les salles.
La vie traumatisée de la photocopieuse, au phobique de l'open space, au prisonnier du boulot, voici la pièce qu'il vous faut. Alexandre est cadre dans une banque et un matin, il est premier manager. Belle opportunité. Bah, ça se discute entre surcharge de travail, pression maximale de ses supérieurs et collègues moyennement OP, ça sent le burn-out. Et si on ajoute à ça que le T-Rex, monstre traumatisant de l'enfance d'Alexandre, revient hanter ses nuits, vous avez une bonne idée de l'état dans lequel on retrouve notre banquier. Un banquier incarné par l'excellent Antoine Gouy, habité et seul en scène. C'est très drôle, c'est féroce. T-Rex, les joies de l'open space d'Alexandre Pessini. Mis en scène par Marie Guibourg, c'est au Lucernaire à Paris jusqu'au 8 mai. Foncez.
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Ah, c'est moi.
Antoine Banderas.
Oui, vraiment. Bah,
bien sûr, évidemment.
J'ai cru que c'était José Garcia.
On les confond souvent.
Il y a un petit soupçon de Jean Lassalle quand même.
Oui, bien sûr.
C'est pas totalement.
Antonio Lassalle.
Bon, nous sommes avec Anna Girardot pour parler du film Ogre d'Arnaud Malherbe, le premier long métrage de ce garçon qui sort le 20 avril.
Chloé, que vous incarnez, est un personnage en fuite, mais qui décide de se poser dans ce qu'on peut qualifier de campagne reculée. C'est presque un point de départ de slasher movie. Hein, généralement, quand une jeune femme s'isole, elle va dans un endroit où il n'y a personne. En quoi ce décor, la campagne et cette maison, certes spacieuse mais un peu bruyante, un peu flippante, vous ont-ils aidé?
Comment elles m'ont aidé? Ben, c'est très simple, hein. Il faut la voir, la maison. Elle est entourée de cette forêt très, très dense qui est la forêt du Morvan. La maison est une ancienne école de garçons. Enfin, je veux dire, tout est réuni pour faire peur. Non, le décor était très effrayant et nous permettait aussi de nous plonger dans l'atmosphère, d'autant que l'ingénieur son, Vincent Piponnier, nous projetait la musique, l'ambiance sonore du film pendant qu'on tournait, ce qui nous mettait encore plus dans l'ambiance. Ouais. Et ça, c'était intéressant pour le film et pour nous. Après, évidemment, c'est ce genre de décor. Le film est une sorte de conte fantastique pour adultes. Mmh. Donc il y a beaucoup de références aux contes qui sont notées, tout en étant dans une ambiance assez réelle, ce qui donne un côté vraiment troublant au film.
Mais Anna Girardot, vous parlez de matière sonore, elle a une importance capitale dans le
énorme
film,
hein,
puisque ce petit garçon, Jules, qui a 8 ans, est sourd d'une oreille et appareillé. Et du coup, la matière sonore est presque, enfin, je dirais pas qu'elle est aussi importante que l'image, mais elle participe à fond de l'ambiance. Ce médecin, par exemple, qui se débarbouille le matin, qui fait des bruits franchement paragoûtants.
Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que j'insiste pour dire que le film est à voir en salle de cinéma, parce que ça prend vraiment toute son ampleur dès le début du film, dès que la salle sombre dans le noir, je dirais. C'est de l'audio visuel, et vraiment le travail du son participe énormément à l'ambiance générale du film. Et vous le disiez, l'appareil auditif de Jules est un outil effrayant pour le spectateur, et pour ça il faut découvrir le film, évidemment.
De toute façon, aller au cinéma.
L'endroit semble géographiquement perdu, mais il l'est aussi dans le temps. Il n'y a pas de date, en tout cas pas d'année, quand l'institut que vous êtes écrit au tableau. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de marqueur temporel dans l'histoire, à part le jour et la nuit. Est-ce que ça aussi, c'est un bon moyen d'entrer de plein pied dans le domaine du conte?
Alors oui, moi j'aime beaucoup les films où il n'y a pas de téléphone, parce qu'on est obligé de communiquer autrement que directement. C'est beaucoup plus effrayant, évidemment. J'aime aussi le côté intemporel que ça donne au film. Et en effet, comme vous le disiez très bien, ça nous met dans un monde ailleurs, c'est une histoire, on a du mal à vraiment la rapprocher de notre propre vie, donc c'est ça de romanesque.
Mmh. Le film est en partie construit et filmé du point de vue du petit Jules, et on se souvient, en percevant le monde avec lui, à quel point les enfants construisent leurs imaginaires pour s'expliquer les réalités qu'on leur cache. Et les gamins vont très très loin dans leur peur. Mais au fond, et là je m'adresse à la jeune maman, cacher des choses aux enfants, c'est de toute façon toujours une erreur.
Alors, mon enfant n'a qu'un an et demi.
Oui, mais il
donc,
perçoit.
Pour
il
l'instant. Perçoit. Mais,
il
mais...
paraît qu'il est très précoce.
C'est vrai. Mais disons que je...
Après son grand-père.
J'ai prévenu son père qu'il fallait absolument pas lui dévoiler à quel point moi, j'étais moi-même une flippette. Mm-hmm. Il faut absolument qu'il pense que je suis très courageuse et que je n'ai peur de rien. Parce que j'ai l'impression que, voilà, quand on a un enfant, on veut le protéger. Et pour le protéger, il faut pas lui montrer que nous-mêmes, mm-hmm. nous avons peur. Est-ce que j'y arriverai, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, comme, c'est comme ça que je me vois comme mère.
Mais on se demande d'ailleurs au cours du film si c'est la mère qui protège son fils de ses terreurs ou le fils qui protège sa mère d'une potentielle nouvelle relation qui pourrait être embarrassante pour elle, pour lui. Est-ce que c'est aussi cette ambiguïté-là qui vous a séduite ?
Complètement. C'est vraiment une chose du film que j'aime beaucoup. C'est vraiment ce double dialogue où finalement c'est l'enfant qui veut protéger sa mère et qui voit des choses qu'elle-même ne voit pas forcément. Et ce point de vue de l'enfant peut nous permettre, même nous en tant que parents, d'essayer de mieux entendre et mieux comprendre nos enfants. Ce qu'il naît d'ailleurs, un des sujets, c'est vraiment ça, c'est l'écoute et le dialogue. Parce que Jules et Chloé, quand ils arrivent dans le village, n'ont pas encore réussi à se soigner de leurs blessures passées et de ce traumatisme qui leur est arrivé.
Et votre autre partenaire dans le film, rendons-lui justice, c'est Samuel Jouy, qui est effectivement, enfin, le fameux médecin, là, qui fait des bruits bizarres le matin, et qui est effectivement parfaitement ambigu et inquiétant. Et sans trop spoiler, on peut dire qu'à un moment, tout ce qu'il dit ou fait semble bizarre ou menaçant. Il est comme ça dans la vie, Samuel Jouy ?
Oh non, c'est un personnage.
Ah bon, rassurez-moi.
Mais oui, c'est un acteur. Ah, Il a été engagé pour ça. Non, mais ce qui était troublant, encore sans rien dévoiler, c'est en effet la ressemblance étrange entre sa silhouette et la silhouette d'un ogre.
D'un ogre. N'en disons pas plus.
Non.
Laissons le mystère planer.
Bien sûr.
Ça sort mercredi, ce film, Anna Girardot. Ça s'appelle Ogre. Ce n'est pas qu'un film qui fait peur, mais aussi un film qui parle de l'enfance et d'une femme qui cherche une deuxième chance. En voilà plein de thèmes. Anna, vous restez avec nous, car dans un instant, nous allons examiner avec vous vos choix et vos conseils en matière de pop culture. Mais tout de suite, dans Pop Pop Pop, je vous propose d'écouter ensemble The Last One. C'est un morceau de Daniel Rossen.
All those years ago.
Daniel Rossen, The Last One, ben oui, The Last One qui coupe tout, comme toutes les bonnes choses, s'arrête à un moment ou à un autre. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Ben, dites-moi, ça ne serait pas le générique de Friends, ça? Ça veut dire quoi, ça, Anna Girardot, que vous faites partie de cette génération qui redécouvre la sitcom mythique des années 90?
Qui redécouvre?
Ah, non, redécouvre, oui.
Qui a découvert, qui a grandi avec.
C'est une enfant.
Bah enfin, j'ai grandi, bien sûr que si.
Ah bon, d'accord. Donc, qui la redécouvre alors.
Qui a grandi avec Friends, qui redécouvre. Bien sûr. J'ai basé beaucoup de choses de ma vie sur cette série.
C'est vrai. Comme quoi, par exemple?
Oh, comme quoi? Ah non, là, j'ai pas de...
Mais c'est ça, le problème, c'est que vous êtes obligé de balancer que vous êtes plus ou Monica, ou Phoebe, ou Rachel, ce qui vous situera d'un seul coup dans...
Eh ben, je suis plus Chandler.
Ouais.
Voilà.
Vous avez fait l'expérience de la colocation à votre tour?
J'ai fait l'expérience de la colocation à New York, bien sûr.
Ah bah voilà, nous y sommes. Bon, c'est donc avec Joey Chandler et Monica que nous attaquons votre pop list. Jingle. Anna Girardot, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Votre livre, c'est Faire un film, Making Movies, oui, de Sidney Lumet. On en parle souvent comme d'une bible pour tous les apprentis cinéastes. Une bible, Charline, ça veut dire qu'il y a un ancien, un nouveau testament?
Bah écoutez, pour vous en parler, rien ne vaut une phrase d'apôtre. En l'occurrence, un certain Steven Spielberg, ouvrez les guillemets, le monde du cinéma y gagnerait beaucoup si chaque réalisateur était tenu d'exposer sa méthode de travail à ses confrères. C'est une chance pour nous tous que ce soit Sidney Lumet, l'un des plus grands cinéastes américains, qui partage ici son point de vue.
Waouh, ça c'est Spielberg, ouais, qui dit ça. Bien, alors Anna Girardot, c'est le livre sur lequel vous avez un œil, j'imagine. À l'heure de réaliser, d'attaquer votre premier long métrage.
Exactement, sur les conseils de mon père d'ailleurs, à nouveau, je suis en train de dévorer ce livre tel un ogre, parce que en effet, c'est vraiment le point de vue d'un réalisateur sur son expérience, et c'est d'autant plus intéressant que ce n'est pas donc une leçon de cinéma, mais plutôt partager son expérience. Chaque film, chaque tournage, en tant que comédienne, je le vois bien, est différent, et... Même si cela, moi, me permet d'avoir une sorte d'expérience, entre guillemets, ce livre me rassure, me plaît, me fait rire. J'adore un tournage de cinéma, je trouve que c'est un lieu assez incroyable, magique, il s'y passe plein de choses. Et c'est vraiment la réunion de plein de talents ensemble qui suivent la vision un peu folle d'une personne et qui se disent oui, on va dans ta direction, on te suit, on va te donner le meilleur pour arriver à ce que tu veux. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait peur au départ, parce que je me suis toujours dit, mais jamais je vais demander à 30 personnes de se lever à 6h du matin pour quelque chose que j'ai eu dans ma tête.
Sans
une
être
fois.
Payé.
Non, si, justement, l'idée c'est quand même d'avoir réuni pas mal d'argent pour pouvoir payer tout le monde. Mais c'est vrai que ça m'a complexée pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. J'ai passé le pas, je les ai fait tourner de nuit, alors du coup j'ai un petit peu faussé la chose. Mais de ce livre, en tout cas, me rassure, parce que je me dis, voilà, il en a eu des galères, il en a eu des scènes compliquées à faire, et pourtant il les a faites, donc allez. Au les cœurs, allons-y.
C'est un livre génial, écoutez-moi tous. Si vous avez envie de faire du cinéma, jetez-vous sur le livre de Sidney Lumet. C'est le livre indispensable, essentiel, bien avant tous les autres, vraiment. Je le pense sincèrement. Quand on vous a demandé, Anna, quel film vous avez plu récemment, vous nous avez répondu « Rien à foutre ». Alors, ce qui n'était pas une fin de non-recevoir, hein. On a pas mal pris, mais le titre du film d'Emmanuel Marr et Julien Le Coustre.
Adèle Exarchopoulos et Cassandre, 26 ans, hôtesse de l'air dans une compagnie low cost, elle vit au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder, Carpe Diem.
Le métier, c'est ce que tu fais, tu apportes des cafés.
Non, papa, tu fais pour pas comprendre, non, en fait.
Si je servais des cafés, je travaillerais en Starbucks, tu vois ce que je veux dire. Les gens, je les aime pendant 2 heures et puis après, salut.
You're asking me to be not fair just to reach out your objective.
What I want you to do is your job.
Bon, Girardeau, si je comprends bien, vous avez quelque chose à en faire de rien à foutre.
Oui, je n'ai pas rien à foutre, justement. Non, déjà, je trouve que Adèle est formidable dedans. Moi, j'aime beaucoup Adèle. Exactement. Et en fait, c'est drôle parce que le film, il est sorti post-Covid, enfin post-Covid, post-confinement, et dans une nouvelle ère finalement où cette espèce de fast life, voyage low cost, en veux-tu en voilà, vas-y que je pars à Londres puis à Ibiza dans la même semaine, s'est arrêté. Il y a une prise de conscience énorme qui a été faite, mais on était dans cette espèce de train à grande vitesse qui ne s'arrêtait plus et dans lequel en fait le personnage d'Adèle représente cette génération de jeunes qui en ont rien à foutre, quoi, qui veulent juste vivre, passer des bons moments et mettre des photos sur Instagram. Et même si elle aspire à plus, elle aspire à plus de confort, elle se jette complètement dans cette vie très rapide en se disant de toute façon il n'y a pas de lendemain. Et je trouve qu'il est très représentatif de cette nouvelle génération, il raconte beaucoup de choses et il est fait avec une liberté, une créativité, moi qui m'a fait beaucoup de bien. Voilà.
Rien à foutre d'Emmanuel Marr et Julie Lecoustre. Bien, passons à la série. Alors la série, c'est Curb Your Enthusiasm, Larry et son nombril en VF, ou encore Modère ton enthousiasme, avec cette tête de fion de Larry David. Pourquoi tête de fion, Charline ?
Parce qu'il s'agit des chroniques de la vie de Larry David, riche producteur hollywoodien, marié à une femme délicieuse. Larry aurait tout pour être heureux s'il n'était pas un infâme casse-cou.
Oh, titmouse !
What ?
I just saw a titmouse.
A titmouse?
A mouse. Titmouse.
Why do you call it a titmouse?
This is what you call it. Titmouse.
Who calls it that?
A lot of people call it that.
Oh my God.
What?
You are obsessed with tits.
Alors, vous aimez bien les casques?
Il avait un peu de retard.
Décalé. Comment il était en retard. C'est Gisela Fontanich une fois de plus. Bravo Gisela. Vous aimez ça?
Ah, j'adore ça, les personnages qui se permettent tout en fait, qui n'ont pas de limites, qui disent ce qu'ils ont, qui disent ça me casse les couilles. Pardon, il y a pas eu le
bip. Il est trop tard. Allez-y, attendez, il va l'envoyer maintenant. Vous allez voir. Voilà.
Et c'est un personnage très décomplexant. Très très très, on a le droit de dire quand même con et tout ça.
Oui, bien sûr.
Ah, pardon,
oui,
j'avais peur d'un coup. Ouais, moi il me fait rire. Il y a des tonnes de séries hein, qui m'intéressent et qui me plaisent. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres, mais voilà, celle-ci c'est celle que je regarde un petit peu pour me détendre. Et Larry King.
Larry David.
Larry King, n'importe David. Quoi. Là, il faut me biper.
Mais... Nous sommes en...
Non, Larry David, j'adorerais jouer avec lui. Ça me...
Très bien, bah, le message est lancé.
Mais vous qui êtes maintenant dans une série dont les gens connaissent les répliques par cœur, ça doit être un truc particulier quand même. La flamme, tout le monde connaît les répliques par cœur maintenant.
Oui, et il en arrive d'autres d'ailleurs, ouais. Et vraiment, moi je les utilise dans ma vie courante.
C'est nul.
Mais ça c'est terrible, vraiment affreux. Bah, oui. Non mais parce que les gens me disent ça et après ils partent et ils me balancent juste ça. Tu es nul, Anne.
Bon, et pour que votre pop-list soit complète, ma chère Anna, il nous faut un peu de musique. Et là, vous avez choisi Taxi d'Angèle. Et ben, je vous propose de l'écouter pas plus tard que tout de suite.
Ce soir dans un taxi, par une dispute sans queue ni tête, la buée et la pluie se reflète dans tes yeux fâchés. Si tu disparais de moi, mon cœur se sera vidé et il me glissera des mains. Oh, tu vois, tu m'as bien changé. L'attente de tes appels me fait réaliser que je serai plus jamais la même depuis que je t'ai. On en reparlera demain. Pardonné, je sais j'ai été trop loin. Première fois que je te vois t'énerver. m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Avant toi c'était mon bien, demain tu vas me manquer. C'est beau mais ça me rend dingue, et je ne cesse de me demander. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh qu'est-ce que tu m'as fait? Avant toi c'était mon bien, même si on veut décider. Quand la lumière elle s'éteint, on ne peut plus vraiment changer. Ce soir il est minuit, tes grands yeux noirs me font la tête, la buée et la pluie se collent à tes cheveux lâchés. Si tu disparais demain, mon cœur se sera vidé et il me glissera des mains. Je pense à ça quand je te vois fâchée. Si je te prends la tête, c'est que la mienne va exploser, les autres les traitent depuis que ma vie est exposée. D'ailleurs je peux pas m'empêcher de composer comme exutoire, racontant ma vie privée et puis ensuite de m'en vouloir. Qu'est-ce que tu m'as fait? 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 Avant toi c'était mon bien, demain tu vas me manquer. C'est bon mais ça me rend dingue, et je ne cesse de me demander. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Avant toi c'était mon bien, même si on veut décider. Quand la lumière elle s'éteint, on ne peut plus vraiment changer.
Là, je vois que j'ai face à moi une véritable fan d'Angèle qui connaît chaque parole.
J'aime beaucoup Angèle, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup cette artiste, j'aime ce qu'elle représente, j'adore l'idée qu'elle soit avec son équipe ultra indépendante, qu'elle soit, qu'elle tienne les rênes de tout ce qu'elle fait, qu'elle écrive toutes ses paroles. Mmh. Et Taxi, j'avais écouté justement une émission super intéressante ici sur France Inter, où elle expliquait que c'était une chanson qu'elle avait, une des premières chansons qu'elle avait écrite dans son album, et que c'était vraiment un piano-voix qu'elle avait composé en arrivant dans son studio, et que son producteur lui avait dit, mais vas-y, c'est bon, elle est là, ta chanson. Je trouve qu'elle est très authentique. Elle est très imagée aussi. On a envie d'y mettre de l'image. En tout cas, il y a quelque chose de cinématographique derrière cette chanson que j'aime beaucoup.
Le choix d'Anna Girardot, Angèle. Bien, la fin de l'émission approche. Juste une petite information un peu particulière aujourd'hui. Vous savez que chaque entreprise a ses quotas. Ben nous avons un réalisateur qui s'appelle Ghislain Fontanus et qui rêve depuis longtemps d'écrire des lancements pour la radio. Donc on lui a confié l'écriture du lancement qui arrive, qui est le grand n'importe quoi. Je vous le lis. Deux points, ouvrez les guillemets. Angèle, le morceau Taxi dans cette fantasque émission de Pop Pop Pop. Bienvenue chez nous si vous êtes en route pour vous divertir dans ce moment de convivialité en famille. Veuillez retrouver ici ensuite notre magique auteur Alexandre Verret qui, une nouvelle fois au cœur de sa séquence Le Grand N'importe Quoi, vous éblouira. Fin de citation.
Bravo.
Calcul de l'itinéraire vers la sortie de la discothèque. Descendez votre 14e gin tonic jusqu'à Yaen La Plus. Puis, dirigez-vous vers l'étage supérieur pour rejoindre les vestiaires. Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Arrivez à l'escalier, montez. Oh là, attention à la marche. Vous êtes arrivé par terre.
Vous êtes certain de vouloir épouser une bombe à retardement?
Bien évidemment, oui. Vous dites ça parce que il ne lui reste plus que 10 secondes avant d'exploser, c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Et viens, chérie, on s'en va.
N'importe quoi, n'importe quoi.
Hier, en tête à tête avec Roger, j'ai bu un cubi de rosé. Puis en tête à tête avec Francis, trois bouteilles de pastis. Puis en tête à tête avec Jacques, un tour de cognac. Et ce matin, je me suis réveillée la tête dans le cul d'un parfait inconnu.
L'inconnu, il s'appelle Manu.
Enchanté. Oh, oh, oh.
Merci Alexandre Verret et merci Gislain Fontanus pour cette magnifique intro. Merci aussi surtout Anna Girardeau. Je rappelle que le film Ogre d'Arnaud Malherbe sort mercredi en salle et que nous vous le recommandons chaudement, même s'il fait peur, ou plutôt justement parce qu'il fait peur. Je rappelle également qu'on peut vous voir sur Prime Video, plus dans la série Totem, et que vous serez bientôt au cinéma dans la maison d'Anissa Bonnefond et dans Le Flambeau, la suite de La Flamme avec Jonathan Cohen. Voilà, une actu qui est riche. Merci de nous avoir rendu visite.
Mais avec grand plaisir.
Merci Anna, merci Charline.
Merci à vous.
À demain.